Mère ou l'aurore d'une humanité nouvelle. Avec Satprem, Jean-Claude Bringuier, Yves Jégu, Claude Métra et la voix de Bernadette Onfroy. Satprem, en ce voyage vers la mer qui fut mêlée si longtemps à l'œuvre de Sri Aurobindo et qui poursuivit l'itinéraire, il n'a guère besoin de prélude. Si ce n'est peut-être celui-même que vous indiquez tout au commencement des trois livres consacrés à celle dont vous fûtes durant de longues années le confident privilégié, vous dites « cette grande forêt vierge de mer, elle a commencé bientôt. Elle est pleine de détours inattendus et de cascades et de fourrés profonds. On ne sait pas très bien s'il faut aller à droite ou à gauche, et peut-être faut-il aller partout dans tous les sens. Peut-être n'y a-t-il pas de chemin ?» Dans la grande forêt de mer, où tout est le chemin, il commence partout, il finit partout, parce que chaque brin d'herbe contient peut-être tout. On se promène. Nous irons donc au hasard dans la grande forêt de mer, sans négliger aucun sens ni détour, parce que le sens est peut-être partout, et que nous ne savons pas très bien ce qui fait ou ne fait pas partie du chemin sans chemin, ni si la fin n'est pas au commencement dans une histoire d'enfant. Quand nous aurons couru la grande forêt, alors nous verrons peut-être se dessiner des lacs, des montagnes, des courbes de niveau, mais à vrai dire, ce qui est intéressant, c'est de marcher. Et c'est cette marche que nous allons entreprendre et dont vous allez, Yves Jégu, tracer les premiers repères.
Nous sommes un peu ici avec vous aujourd'hui parce que ces trois tomes qui viennent de sortir sur l'histoire de celle qui est connue sous le nom de mer et que peu de Français ou que peu d'Européens connaissent, ou s'ils la connaissent, ils la connaissent par des anecdotes, des on-dits ou des jugements qui sont tout à fait extérieurs à la réalité qu'on découvre en lisant ces trois tomes qui sont écrits par vous sur et à partir de l'agenda qu'elle a écrit qui comprend, me dites-vous, 5 ou 6 000 pages, et qui sont le récit, oui, fantastique, de l'expérience de mère, de cette femme, depuis l'avant 14-18 jusqu'à 1973. Oui. C'est d'elle, je crois, qu'il faut peut-être parler tout de suite. Oui. Qui est-elle?
C'est elle qui a trouvé le secret de Sri Aurobindo. Elle l'a trouvé. Il ne l'avait pas dit, n'est-ce pas? Parce que ce n'est pas un secret mental, c'est un secret dans le corps, dans la matière. C'est un secret dans un changement, pourrait-on dire, du programme cellulaire. Alors cela, ça ne s'apprend pas comme... ça ne s'enseigne pas. C'est un cheminement qu'il faut faire dans son corps, n'est-ce pas? Mère, c'est une prodigieuse aventure dans l'avenir de l'espèce.
Il n'y en a pas un sur 1 million qui sache vivre. Ils arrivent dans la vie, ils ne savent pas pourquoi. Ils savent qu'ils ont un certain nombre d'années à vivre, ils ne savent pas pourquoi. Ils pensent qu'ils auront à s'en aller parce que tout le monde s'en va, et ils ne savent pas non plus pourquoi. Ils sont nés, ils vivent, ils ont ce qu'ils appellent des bonheurs et des malheurs, et puis ils arrivent à la fin et ils s'en vont. Ils sont entrés et ils sont sortis sans rien apprendre. Au fond, l'immense majorité des hommes sont comme des prisonniers avec toutes les portes et toutes les fenêtres fermées. Alors ils étouffent, ce qui est assez naturel. Mais ils ont avec eux la clé qui ouvre les portes et les fenêtres, et ils ne s'en servent pas.
Oui, ce qui est très intéressant pour nous, c'est que Mère est une Parisienne. Après tout, comme nous, qu'elle a vécu toute notre vie peut-être pas encore aussi folle que nous la connaissons, mais qui commençait justement à sortir de son positivisme rassurant. Et quand Mère avait 20 ans, c'était le plein développement, le plein éclatement de l'impressionnisme. C'était déjà la matière qui éclatait toutes ses apparences. C'est le temps aussi où Einstein formulait ses premières équivalences de la matière et de l'énergie. C'est le moment aussi où Planck découvrait ses premières équations quantiques. Mère arrivait, avait 20 ans, au moment même où toute la grande question de la matière, de la réalité de la matière, commençait à se poser. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand Mère me parlait de ses souvenirs, elle me disait que la première expérience, mais révolution, disait-elle, la première révolution dans sa tête, c'était le jour où, petite fille, on lui a dit, tu vois cette table, tu crois que c'est du bois et que ça ne bouge pas, mais ce sont des atomes et ça tourbillonne. Alors elle s'est dit, mais si c'est comme ça, alors rien n'est vrai. C'était le point de départ de sa quête. Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce que c'est que la matière? Elle était fille d'une matérialiste athée et même communiste. Mathilde Alfassa était une matérialiste à tout craint, comme disait Mère, une barre de fer, une femme qui avait une volonté extraordinaire, qui ne croyait en rien de tous les phénomènes parapsychiques, disait « Oh, tout ça, ce sont des maladies cérébrales ». Elle était la fille d'un banquier et elle était entièrement nourrie de positivisme et de matérialisme. Donc, il n'y avait dans son enfance rien qui la prédisposait à une expérience au-delà de la matière positiviste que l'on connaissait à l'époque. Et pourtant, ce qui est tout à fait étonnant, c'est que dans ce milieu-là et dans ce monde-là, nous sommes en 1890 ou 95, elle avait 20 ans en 1898, c'est qu'au milieu même de cette culture positiviste et rationnelle, elle avait toutes sortes d'expériences incroyables pour elle. Tout d'un coup, au milieu d'un déjeuner, elle s'apercevait que son corps était là à la table et elle était sortie de son corps et elle se promenait ailleurs, elle voyait d'autres choses ailleurs. Et elle restait là, la cuillère dans sa main, suspendue, pendant qu'elle était ailleurs, en dehors de son corps. Toutes sortes d'expériences qui pouvaient être assez ahurissantes pour quelqu'un qui n'en avait pas la clé. Et constamment, il lui arrivait, comme cela, de laisser cette petite prison de matière dans laquelle on se croit, eh bien, mon Dieu, comme chez soi, bien, bien installé. Et elle en sortait et elle allait se promener ailleurs. Dans la conscience des gens, en d'autres lieux. Alors elle commençait à se demander, mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Qu'est-ce que c'est que cette matière? Qu'est-ce que c'est que cette vie qui est matérielle pourtant, mais qui n'est plus dans le corps, qui n'est plus dans l'habitude d'être habituelle du corps? Et tout d'un coup, en 1907, je crois, elle a rencontré un homme très étonnant qui s'appelait Théon. C'était une sorte de super Gurdjieff, pourrait-on dire. Un homme qui était doté d'étranges pouvoirs et qui a vu tout de suite qui était Mira, ainsi qu'on appelait Mère à cette époque, et qui lui a donné l'explication des expériences extraordinaires qu'elle avait. Alors c'était une deuxième révolution dans sa tête, n'est-ce pas? Après la révolution des atomes, de ces tables qui se comportaient très différemment de leur apparence, sa deuxième révolution, c'était de voir que son propre corps et sa propre matière avaient un mode d'être qui était très différent de celui que l'on vit d'habitude. Alors Théon, peu à peu, lui a montré, enseigné, les diverses couches de conscience, pourrait-on dire, qui s'étage depuis la matière jusqu'à ce qu'on appelle l'esprit. Il lui a fait connaître toutes sortes de pouvoirs très extraordinaires que les hommes ne connaissent pas d'habitude, et c'est tant mieux. Elle a donc commencé à explorer déjà l'au-delà de la matière telle que nous la connaissons. Et alors, là aussi, c'est très intéressant parce qu'elle a buté à une première porte. Elle s'est aperçue que ces merveilleux pouvoirs, Théon, n'est-ce pas, pouvait faire sonner un gong simplement en le regardant. Madame Théon, la femme de Théon, pouvait faire venir ses sandales à elle au lieu d'aller chausser ses sandales. Il pouvait faire pleuvoir sur ses rosiers si la terre était sèche. Enfin, vraiment des pouvoirs qu'on appelle très miraculeux. Et aussi, il pouvait guérir. Tout cela, ces expériences s'est passées en Afrique du Nord, où Théon avait une splendide propriété. Alors, Mira, mère, regardait, apprenait cette manipulation des forces qui sont un peu au-delà de la matière visible que nous connaissons et que nous manipulons. Et elle s'apercevait, par exemple, que ces malades que Théon guérissait d'un coup d'œil retombaient malades 8 jours après. Et qu'on pouvait les guérir indéfiniment et qu'ils retomberaient malades indéfiniment. Elle s'apercevait que à quoi sert de changer apparemment et momentanément les choses par un petit miracle si elles ne sont pas radicalement changées. C'est simplement un pouvoir qu'on impose momentanément à la matière qui obéit, et de la seconde où le pouvoir ne fait plus pression sur la matière, eh bien les choses reviennent comme auparavant. C'est-à-dire la maladie revient, tous les désordres reviennent tels qu'ils étaient auparavant. Ce n'était pas la solution, évidemment. C'était donc l'impasse aussi de tous ces fameux pouvoirs occultes. La solution était ailleurs. Et Sri Aurobindo faisait exactement la même découverte, peut-être à la même époque, quand il était révolutionnaire au Bengale, avec ce célèbre yogi, qui était un révolutionnaire, qui un jour s'est fait mordre par un chien enragé. Par son pouvoir yogique, il a aussitôt arrêté le développement du virus et de la rage. Et pendant 10 ans ou 15 ans, il a vécu parfaitement indemne, sans aucune trace de cette morsure de chien enragé. Et un jour, au cours d'une réunion politique, il s'est mis en colère. Et 2 heures après, il mourait de la rage. C'est-à-dire qu'il avait, cultivé son pouvoir pendant 10 ans, pendant 10 minutes, il a perdu le contrôle de lui-même, et instantanément, ce qu'il avait tenu sous sa poigne pendant 10 ans est ressorti et il est mort de la rage. Alors, un pouvoir qui dépend de conditions n'est pas un vrai pouvoir. C'est pas une guérison. C'est simplement une pression sur la matière. Et ça, c'est une découverte très importante, parce que, du même coup, ça nous délivre de tous ces hommes qui ne sont pas nécessairement des charlatans, mais qui vous font des petits miracles qui durent juste le temps d'un feu d'artifice, mais qui ne guérissent rien du vrai problème, qui ne changent rien vraiment à la matière. S'il y a un miracle à faire, il faut que ce soit le miracle de la matière elle-même. Il faut que ce soit la matière qui fasse son propre miracle.
Prenons une image, si vous voulez bien. Dans l'Évangile, on nous décrit le miracle du Christ marchant sur les eaux. À l'instant, vous avez évoqué la question posée par Mira, quand on lui dit « Voici une table, tu crois que c'est du bois, mais en réalité, c'est un tourbillon d'atomes et de particules. » Par conséquent, nous qui sommes ici, nous pouvons nous considérer également comme un ensemble de particules tourbillonnantes, assis sur un ensemble de particules tourbillonnantes, appuyés sur un ensemble de particules tourbillonnantes, qui, dans notre façon nominaliste de voir les choses, s'appelle table, chaise et corps. Par ailleurs, lorsque nous considérons les différents aspects de la matière, il y a des matières dures et il y a des matières molles. Ainsi, nous nous enfonçons dans l'eau. Mais lorsque nous nous promenons à 100 km à l'heure sur des canaux automobiles, cette eau devient dure comme du ciment. Si nous tombons du canot automobile à cette allure, à cette vitesse, nous mourrons éclatés comme si nous avions un accident de la route normale. Lorsque, par conséquent, le Christ marche sur l'eau, n'est-ce pas simplement qu'il a su changer la vitesse des vibrations ou la nature des vibrations du système de, disons, de tourbillon vibratoire que constitue notre corps et celui qui constitue l'eau, de manière à les mettre en harmonie et à pouvoir ainsi marcher sur elle. Je veux dire qu'il y a donc, à travers des exemples purement comme ça, gratuits, et qui sont peut-être idiots, une façon d'aborder la question.
Ils ne sont pas idiots, mais je crois que l'explication est autre. Ce n'est pas la question de modifier des intensités vibratoires, c'est pas cela du tout. Alors, il y a une histoire qui vient rejoindre l'histoire du Christ et qui est très amusante, c'est l'histoire de Madame Davinelle. Vous avez entendu parler de cette première femme qui est entrée à Lhasa.
Si, oui.
Elle a eu une expérience très intéressante qu'elle racontait à Mira, justement à Paris, quand Mira avait 21 ans ou 22 ans. Elle était en Indochine, je crois bien. Et tous les soirs, elle avait l'habitude de méditer en marchant. Elle suivait donc la piste jusqu'à un certain point, en marchant, les yeux clos, et puis elle revenait sur la piste jusqu'au camp. Un jour, elle a pris l'une de ces pistes, elle est entrée dans sa méditation profonde, elle est allée jusqu'au bout de la piste, puis elle est revenue, les yeux ouverts. Et tout d'un coup, elle s'est retrouvée devant une rivière. Comment avait-elle traversé la rivière à l'aller, puisque au retour, cette rivière était là devant elle? Il a donc bien fallu qu'à l'aller, elle ait traversé les eaux comme le Christ.
Oui.
Alors, quelle est l'explication?
Oui, quelle est-elle?
Eh bien, dans un certain état de conscience, n'est-ce pas, on échappe, si je puis dire, à l'hypnose du mental, qui vient tout recouvrir de ces « tu peux, tu ne peux pas », de toutes ces lois. C'est réellement une hypnose dans laquelle nous sommes. Et que quand on ne pense pas qu'on va se noyer, si on traverse la rivière, eh bien on la traverse comme si de rien n'était. Parce que du moment où Madame Davinelle a vu à la rivière, qu'elle a dit « mais je ne peux pas traverser cette rivière comme ça, je vais me mouiller », instantanément, il a fallu qu'elle se mouille comme tout le monde. C'est une explication qui, je crois, est valable et que l'on peut expérimenter aussi sous l'effet de l'hypnose, parce que bien des gens atteints de douleurs aiguës, s'ils sont mis en état d'hypnose, ils ne sentent plus rien du tout.
Je me demandais si ce qui se passe dans nos sociétés par rapport à notre science et ce qui se passait dans les sociétés d'autrefois par rapport à leurs sorciers n'était pas similaire, c'est-à-dire que lorsque le détenteur des secrets d'une tribu d'Indiens d'une Amérique du Nord faisait à ses concitoyens le récit mythique de la création du monde, et par déduction de la création de leur propre société, l'ensemble des membres de la société indienne en question croyaient absolument par la foi et par la reconnaissance de la vérité, que ce que racontait le grand sorcier était vrai et réel. Et ils en tiraient des conséquences pratiques, jusque, et y compris, le moindre rituel du geste dans la fabrication des objets, dans la technologie, qui était la déduction de ce récit de la création du monde. Donc, entre eux et le grand sorcier, il n'y avait pas de problème, tout était vrai et tout était pratiqué dans l'intérieur de ce récit. De même, on pourrait s'amuser à imaginer que nos grands sorciers à nous, c'est par exemple Einstein, et que le récit de la création des mondes qu'il nous fait avec d'autres conceptions, d'autres mots et une autre méthode, là, la mathématisation généralisée, est ressentie dans nos sociétés comme réelle et vraie, et que dans ces conditions, elle devient objective, et que, poussant les choses peut-être exagérément, on en arriverait à dire que la science est vraie parce que nous la croyons telle, et que c'est cet ensemble de croyances partagées par le consensus quasi-total de l'humanité qui la rend totalement crédible et qui lui assure son succès pratique. Et que, poussant encore plus loin ce paradoxe, on pourrait donc dire que si, descendant le long du tronc linguistique qui fait notre propre civilisation, nous en arrivions à déboucher tout à fait au fond au non-verbe, nous pourrions recommencer sur une autre ligne linguistique et inventer une autre civilisation, un autre monde et une autre science qui serait tout aussi logique et qui serait tout aussi vraie si tout le monde se mettait à y croire. Et que donc, il y a tout à fait dans le fond des choses un endroit, un lieu où tout peut toujours recommencer comme à zéro, mais où, plutôt que de recommencer si on le franchissait, on entrerait alors
dans une autre espèce.
Voilà.
Oui. Oui. Mais il s'agit de savoir où est le lieu, justement.
Alors, c'est là qu'il faut peut-être continuer le récit de,
oui, l'expérience,
de l'expérience. Oui. Parce que finalement, les pouvoirs de Théon et les enseignements, oui, qu'elle a donnés à Mira à l'époque sont encore du type des relations d'extériorité.
Oui.
Entre la conscience d'aujourd'hui et la matière d'aujourd'hui.
Ça ressemble aux épreuves initiatiques, d'ailleurs.
Oui. Mmh.
Qui vont par gradation de difficultés croissantes.
Et alors, Mira ne se satisfait de rien.
Oui, elle s'est aperçue que l'occultisme et tous les grands pouvoirs, c'était une autre sorte d'impasse, n'est-ce pas ? Mmh. Et d'ailleurs, il est bien possible, si l'on veut bien penser que l'Atlantide ait existé, et Shobindo disait que, probablement, elle était peuplée d'êtres qui avaient atteint de très grands pouvoirs occultes et qui manipulaient le monde par des puissances intérieures, comme nous le manipulons aujourd'hui et mal par des puissances mécaniques, mais que ces hommes non régénérés, animaux comme tous les hommes, se servaient mal de leur pouvoir et, finalement, ont créé un monde si insupportable par sa fausseté intérieure, peut-être égal à notre propre monde aussi insupportable par sa fausseté mécanique, et que cette Atlantide a disparu au bout de sa course, ayant épuisé son expérience.
Comme si c'est une sorte de thème qui revient dans votre texte, comme si des grandes occasions se présentaient dont on ne profitait pas.
Peut-être que le moment n'était pas venu parce que l'espèce n'était pas encore suffisamment unifiée, n'est-ce pas ? Il ne s'est jamais produit, à aucun temps de l'histoire que nous connaissons en tout cas, une unification pareille de l'espèce humaine comme maintenant. Maintenant, réellement, il n'y a plus de civilisation ici ou là. Il y a une totalité humaine, n'est-ce pas, qui s'imagine illusoirement être capitaliste ou communiste, jaune ou noire ou blanche, mais qui en réalité est un espèce d'énorme nœud humain, ligoté et imbriqué impitoyablement, sans possibilité d'échapper.
Comme si elle avait réuni négativement les conditions de son propre salut.
Oui. Oui, négativement. Parce qu'elle arrive justement à la dernière porte. Parce qu'elle a épuisé, on a épuisé toutes les portes. Et c'est ce que faisait May, elle a frappé à toutes les portes pour se demander, mais où est la solution ?
Ce qu'est l'atmosphère mentale d'une ville comme Paris, où des millions d'êtres pensent, et quelle pensée ? Représentez-vous cette masse grouillante et mouvante ? Cet enchevêtrement inextricable. Il semble tout d'abord qu'on n'y puisse rien démêler. Et pourtant, malgré toutes les tendances, toutes les volontés, toutes les opinions contradictoires, il s'établit une sorte d'unification, d'identité entre toutes ces vibrations, car toutes, à d'infimes exceptions près, tout exprime la convoitise. La convoitise sous toutes ses formes, tous ses aspects, dans tous les plans. Toutes les pensées des mondains qui n'ont pour but que les jouissances et les divertissements matériels expriment la convoitise. Toutes les pensées des producteurs intellectuels ou artistes assoiffés de considération, de renommée et d'honneur expriment la convoitise. Toutes les pensées des gouvernants et des fonctionnaires aspirant à davantage de pouvoir et davantage d'influence expriment la convoitise. Toutes les pensées des milliers d'employés et d'ouvriers, de tous les opprimés, les malchanceux, les écrasés luttant pour une amélioration de leur triste existence, expriment la convoitise. Et tous, riches ou pauvres, puissants ou faibles, privilégiés ou infortunés, intellectuels ou ignorants, veulent de l'or. Toujours plus d'or pour satisfaire toutes leurs convoitises.
Alors après Théon.
Après Théon, justement, le grand point d'interrogation venait, mais elle a parcouru à ce moment-là toute la voie de la philosophie. Elle a fait l'étude de toutes les philosophies possibles du monde, pour s'apercevoir que sous un vocabulaire ou un autre, il disait avec pas mal de prétentions et de dogmes inutiles ce qu'elle avait trouvé tout simplement dans son expérience intérieure. Mais là encore, elle percevait toutes sortes de pouvoirs intérieurs, mais sans avoir trouvé le levier ou la jonction entre ces pouvoirs intérieurs et la matière. Comment transformer cette matière ? N'est-ce pas ? Elle a fait ce qu'ont fait tous les mystiques, c'est-à-dire qu'elle sortait de ce corps, elle faisait un trou dans cette carapace de matière, elle sortait par le haut, on va dans des régions libérées, soi-disant, n'est-ce pas ? Et lumineuse et très agréable, mais ça c'est pas soi-disant, c'est très réel, où on est très à l'aise, où on est dans une grande respiration, n'est-ce pas? Mais alors quand on rentre dans la cage, on est comme avant. De la seconde où on rentre dans la matière, on est le même animal qu'avant, qui souffre, qui a froid, qui vieillit, qui se décompose et qui meurt. Alors elle se demandait, mais où est le chemin si ce n'est pas de sortir et d'aller dans les grandes étendues là-haut? Et si par ailleurs dans la cage, on est emprisonné sans solution. Et c'est à ce moment-là que le concours des circonstances a voulu que son deuxième mari, Paul Richard, est parti pour Pondichéry. Il l'a emmené à Pondichéry, où elle a rencontré Sri Aurobindo.
Qu'est-ce que c'était que ces maris pour elle?
Probablement une expérience qu'elle avait. Mère, c'est un être qui a fait toutes les expériences possibles, n'est-ce pas ? Avec son premier mari, elle a fait toute l'expérience du monde de l'art et de la beauté. Son premier mari était peintre, et avec lui, elle a connu Monet, elle a connu Renoir, elle a connu Sisley, elle a connu Rodin, elle a connu tout ce monde qui cherchait une autre manière de décrire la matière ou d'exprimer la matière. C'était cette expérience-là qu'elle a fait avec son premier mari. Ça a duré 7 ans, je crois. Et avec son deuxième mari, qui était un philosophe, elle a fait tout le tour des philosophies du monde, également pour s'apercevoir que il n'y avait pas de solution. Là.
Il y avait des intuitions, mais il n'y avait pas de solution. Ce qui est très frappant, c'est qu'il y a en effet, dans les rapports de l'homme avec la matière, par exemple, ou avec lui-même, ou avec l'univers, disons, trois façons de faire. Ou bien on s'enfuit par le haut, c'est-à-dire on a des extases mystiques ou des extases intellectuelles. Je veux dire, ça arrive aussi, des très grands philosophes ont connu des sentiments de joie intense et lumineuse à la vue de certaines vérités vécues par eux. Et de l'autre côté, il y a aussi la fuite dans la tentation du changement permanent. c'est-à-dire l'esprit de la révolution permanente, de le changement des sociétés, de changement des rapports des hommes par rapport aux autres. Et là aussi, on finit par toujours faire la même chose. Depuis 2 millions d'années que ça dure, on s'aperçoit qu'on a changé les formes, mais qu'on n'a pas changé le fond. Et entre ces deux attitudes, on s'aperçoit effectivement que vous, ainsi d'ailleurs, quand même, que beaucoup de mystiques qui se considéraient peut-être plus comme des préfigurants que comme des réussites. Le propos, c'est de dire qu'il n'y a pas de véritable position pour l'homme que d'être le transformateur de lui-même et de l'univers, et qu'il ne transformera rien s'il ne refait pas une alliance avec la matière.
C'est son premier secret, n'est-ce pas? Oui. Il est parti de là, et c'est son dernier secret.
C'est ça. Alors, ce qu'elle a fait, elle, c'est, quand elle arrive à Pondichéry, elle tombe sur un homme, qui est Sri Aurobindo, qui est déjà engagé dans cette expérience, ou qui va s'y engager.
Alors, ce qui est très curieux, c'est que Mère avait eu à Paris, avant de rencontrer Sri Aurobindo, plusieurs expériences qu'elle ne s'était pas du tout expliquées. Comme je vous le disais tout à l'heure, on peut faire un trou dans la cage, sortir par le haut, aller dans les grandes étendues. Mais il lui était arrivé à plusieurs reprises, au lieu de monter dans ces plans de conscience supérieurs, de faire comme des chutes fantastiques dans l'inconscience, dans l'obscurité, dans le noir, n'est-ce pas? Et tout au fond de cette chute, de se trouver subitement devant comme ce qu'elle appelait des nuages dorés, qui étaient une matière d'une densité et d'une luminosité ne correspondant à rien de ce que nous connaissons, de ce qu'elle connaissait.
Mais c'est une vision physique ou c'est une vision de rêve?
Qu'est-ce que nous appelons le rêve? Le rêve, c'est simplement nous traversons un certain nombre de couches d'épaisseur. Et puis, de l'autre côté de ces épaisseurs, on touche à quelque chose d'autre. Alors, on dit que c'est un rêve.
Vous considérez que le rêve, c'est le signe de quelque chose d'aussi réel que la physiologie de la perception, de l'œil.
Qu'est-ce que nous pouvons être pour un poisson? Une espèce de rêve, probablement.
Oui.
Et si un chimpanzé très évolué, un pionnier parmi les chimpanzés, voulait contacter, toucher un peu ce qu'est notre monde mental, comment cela lui apparaîtrait? Comme une cessation de tout ce qu'il est en tant que chimpanzé et un indicible quelque chose qui est comme un rêve, n'est-ce pas?
Et pour le poisson dont vous parliez, qu'est-ce que c'est que l'extérieur du bocal?
Oui. Pour le poisson, c'est la mort, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qui se passe en dehors de notre bocal? Nous disons, c'est la mort.
Oui, c'est
Mais qu'est-ce que c'est en réalité? Et si nous savions ce que c'est l'en dehors du bocal, nous saurions ce qu'est la mort. Et savoir ce qu'est la mort, c'est la fin de la mort.
Est-ce qu'on peut dire que c'est ce que vous venez de dire, le but de la recherche de Mère?
C'est le but qu'elle ne connaissait pas encore, mais c'est finalement son but. Elle disait ça quand elle avait 90 ans. C'est la question qu'on m'a donnée à résoudre. Mais on ne découvre sa question que longtemps après.
Là, je crois qu'il faut reprendre son trajet.
Et alors, elle est arrivée à Sri Aurobindo, qui lui a dit, mais moi j'ai eu telle expérience.
Pardon de vous demander ça. Pourquoi est-elle allée à Pondichéry?
Sous le prétexte le plus banal, dans la vie, les prétextes sont toujours aussi insignifiants que possible.
Ce qu'on appelle le hasard.
Ce qu'on appelle le hasard, bien entendu, ce qui n'explique rien. Son deuxième mari voulait devenir député de l'Inde française et il est parti à Pondichéry pour se faire élire et Mira l'a accompagné. Et c'est comme cela qu'elle a rencontré Sri Aurobindo.
Et lui, il a été élu?
Non, il s'est fait battre, lamentablement.
Bon.
Et alors, ce qui est très curieux, c'est que Sri Aurobindo a eu la même expérience que Mère pendant qu'il faisait la révolution au Bengale. C'est-à-dire que tout au fond, au lieu de sortir par là-haut, dans le nirvana et dans les grandes étendues de conscience, il a fait ce que Mère appelait déjà le chemin de la descente. Et tout au fond de cet inconscient, qu'est-ce que c'est que l'inconscient? L'inconscient, c'est ce qui est à la première racine de notre vie, n'est-ce pas? Tout au fond de cet inconscient, il a découvert une autre énergie, une autre, enfin, il a découvert une énergie qu'il appelait supramentale, au fond de la matière, et qui ressemblait étrangement à ces nuages dorés que Mère avait vus à Paris. Alors, on dit que l'on voit les choses tout à fait là-haut dans la conscience, ou tout à fait en bas dans l'inconscience. Mais ça, c'est notre langage mental. Quand toutes ces couches qui nous enveloppent, qui ont fait notre évolution minérale, végétale, animale, quand elles sont traversées, eh bien tout est là, tout de suite. Il n'y a plus de couches, il n'y a plus de séparation, il n'y a plus de haut, ni de bas, ni d'esprit, ni de matière, il y a quelque chose d'autre.
C'est ça. Quel est le rapport de cette énergie et de ces nuages dorés avec ce que voit par exemple un physicien subnucléaire qui,
ce serait intéressant,
qui à force d'expérience provoquée, réussit à voir. Il y a quelque chose de très intéressant là aussi, parce que si des critiques peuvent dire que cette vision de Sri Aurobindo et de Mère sont des illusions du rêve, parce que ce ne serait pas vérifiable par leurs yeux physiques, conditionnés par leur conception du monde. De même, on est bien obligé de constater qu'un physicien nucléaire ou subnucléaire ne voit pas de ses yeux directement les subparticules qu'il a provoquées à la révélation par un accélérateur, bien qu'il est vrai, ils finissent par les voir vaguement en photographie. Mais il y a quand même un rapport entre l'invisibilité de l'intuition mathématisée et de la recherche mathématique et la photographie finale. Y a-t-il entre la vision du nuage doré et la réalité de ce nuage doré un rapport qu'on peut définir? Parce que vous dites que c'est une nouvelle matière en somme, c'est une nouvelle énergie qui apparaît à la suite d'un processus qui n'est pas celui de la science mathématique, mathématisée, physique ou autre, mais qui n'en est pas moins aussi rigoureusement atteinte par une méthode qui m'a l'air d'ailleurs extrêmement assez difficile et assez dure et qui exige des années et des années d'expérience contrôlée et qui amène à la réalité dense quelque chose qui n'est vécu par la plupart des hommes que comme un vaste rêve, en effet inconscient. On a l'impression qu'il est procédé un formidable rapprochement de ce qui n'est dans nos cerveaux que des nuages lointains.
Un rapprochement, c'est cela. À mesure que l'expérience progresse, c'est-à-dire à mesure que l'on purifie la matière, si je puis dire, de tous ces revêtements hypnotiques, on pourrait presque dire, tout ce qui s'est collé sur cette matière à travers l'évolution, on arrive, non pas vraiment à une nouvelle matière ni à une nouvelle énergie, mais à la matière telle qu'elle est, c'est-à-dire à l'énergie telle qu'elle est.
Alors, comment peut-on décrire cette énergie telle qu'elle est?
Elle disait simplement des ondes foudroyantes dans une immobilité totale. Mais ça, c'est le bout de la courbe, n'est-ce pas?
Oui.
C'est le bout de la courbe. Il y a eu tout le cheminement pour aller jusque-là, qui est encore peut-être plus intéressant même que le bout.
Mais avant que vous repreniez le récit nécessaire, je crois, en effet, des expériences de Mère, moi, je voulais vous demander quelle est la procédure, c'est-à-dire, ou les procédés, si vous voulez. Qu'est-ce que c'était l'expérience, pratiquement, pour elle? Une méditation?
Non. Non, parce que la méditation, c'est aussi l'impasse, n'est-ce pas? Ça, c'est une expérience qu'elle avait faite déjà en Europe, s'apercevoir que les méditations ne menaient nulle part. N'est-ce pas? Vous entrez dans la tranquillité de votre chambre, vous enlevez tout votre manteau du monde, vous le mettez sagement dans un coin, et puis vous entrez dans votre contemplation. Et puis quand vous sortez de la contemplation, là, vous sortez de la tranquillité, vous rattrapez votre manteau du monde qui est aussi sale qu'avant, et ça n'a rien changé.
Alors comment faisait-elle?
Elle faisait ça comme Sri Aurobindo faisait au milieu de l'action révolutionnaire, elle faisait ça au milieu de toutes ses occupations. Et c'est là où vraiment l'expérience est très intéressante, n'est-ce pas? C'est une expérience de purification. De purification de la perception matérielle et de la réaction corporelle. on s'aperçoit que toutes nos perceptions sont fabriquées, que toutes nos réactions sont fabriquées aussi, que ce ne sont rien que des habitudes de répondre d'une certaine manière à certains impacts ou à certains chocs. Et alors, à mesure qu'on tranquillise d'abord les couches mentales, celles dans lesquelles nous pataugeons d'habitude, on commence à voir la matière d'une façon plus exacte, si je puis dire.
Ô frère, pareil à moi au fond d'une tombe, qu'est-ce qui fait vivre un homme? Quoi? Cette seule question. Je ne demande ni les grandeurs, ni la fortune. Rien de fantastique, pas d'apparition, pas d'hallucination, pas de pouvoir fabuleux. Simplement ça. Qu'est-ce qui fait battre mon cœur? Qu'est-ce qui fait que c'est? Cette seule petite question, pas plus grosse qu'un feu de luciole. J'ai posé tant de questions dans ma vie, et ce soir je vois que c'est toujours la même. Il n'y a qu'une question dans un homme, un petit cri dedans qui dit toujours « quoi ?» Quoi tout pur. C'est tout ce que j'ai, tout ce que je tiens dans ma nuit. C'est tout mon bien, c'est toute ma vie aveugle, ma vie brûlante, ma vie plus vraie que la vie. On peut tout enlever, il reste ça. On peut tout ajouter et ça ne bouge pas. On peut mettre ça dans une prison, un palais, un train, c'est toujours pareil. Lui jeter de l'or, de la boue, ça brille encore, ça brûle dedans. C'est le cri de l'homme, peut-être le cri de la bête, le cri de la plante. Une petite flamme dedans qui brûle partout, qui habite tout, comme une étincelle d'or au cœur des choses, comme un son pur au fond de tout, qui emplit tout, qui prie partout, qui vibre, vibre dans le désert et dans les astres, dans la peine et dans la joie. Ça, ça partout, au commencement et à la fin, au milieu de tout. Une vie unique d'un million de feux. J'ai tiré le rideau du monde, j'ai pris ce feu comme un oiseau au creux de mes mains, et je ne savais pas quoi faire. C'était tout noir et oppressant au fond de ce corps. C'était peut-être rien, mais c'était tout. Ah, qu'y a-t-il d'autre? Dehors, des trains qui roulent, des gens qui passent. C'est comme une mort les yeux ouverts. Dedans, c'est comme une vie qui n'est pas née encore. Et je regardais ce rien, ce tout petit rien qui brûle. C'était imperceptible, mais ça vivait. Il m'a semblé que c'était au creux de ma poitrine. J'ai pris cette chaleur d'oiseau, et je la serrais si fort contre mon cœur qu'elle allait peut-être vivre. Je la regardais tant qu'elle allait peut-être ouvrir les ailes et m'emporter. Et je parlais à mon oiseau. Où était-ce lui qui parlait? C'était comme un murmure. Une prière d'aucune église, comme un son tout seul qui balbutiait. Je ne sais pas, mais je sens. Je ne vois pas, je ne vois rien, mais je sens, je sens, je sens. Une toute petite flamme de quelque chose qui voulait vivre, qui avait tellement besoin de vivre. Oh, ça doit être, puisque j'ai tant soif. Ça doit, ça doit. C'était presque douloureux au creux de la poitrine. Où est-ce? Où est-ce? J'ai vécu des millions d'années. J'ai cogné à toutes les portes. Où est l'espace? La vie. Mon grand soleil a plongé dedans, les ailes ouvertes. Et ce sera ça, enfin. Ça. Ça. Ah! La vie n'est pas vivante, la vie n'est pas encore. Et qu'est-ce qui est? Des semaines, des jours qui passent, des corps qui marchent, des corps qui meurent, des cœurs qui croient aimer, des heures et des heures pour parer, nourrir, vêtir un corps. Où est la minute vraie, la minute vaste, pour rien, pour la joie d'être? Où est la vie comme un coup d'aile de mouette sur le grand dos des houles? Et tout mon cœur était ramassé là, dans cette poussée de flammes, ce cri sans mots, et je pesais, pesais contre ces murs. J'étais une densité compacte, un étouffement, une boule d'espace contenue, à croire que toutes les houles du monde et tous les cris des mouettes sauvages étaient ramassés là.
Alors on perçoit toutes sortes de pulsions, de peurs, de craintes, d'angoisse, de toutes sortes de trépidations,
toutes sortes de phénomènes minuscules, microscopiques, qui sont comme la racine même de la mort dans le corps. Cette toute petite réaction de frayeur ou d'angoisse, à la limite, c'est la maladie, et puis la mort. Ce sont dans de tout petits phénomènes de la réaction corporelle quotidienne au milieu des activités de tous les jours qu'on attrape la racine qui grossit et devient la maladie et devient la mort. Alors c'est un processus innombrable à chaque instant à clarifier, laisser surgir pour les transmuer toutes ces réactions de la conscience corporelle. Mais ça, c'est un travail formidable. C'est le travail du pionnier, n'est-ce pas? Celui qui taille le chemin, il a le travail formidable.
Mais alors, est-ce que c'est un travail ou, au contraire, une absence totale de travail?
Oui, d'une certaine façon, oui.
Ou alors, est-ce que ça lui arrivait ou est-ce qu'elle le faisait?
Ça lui arrivait de la façon la plus simple possible. On la faisait passer par toutes les maladies possibles pour que chaque fois, elle trouve la clé. Mais c'est quelqu'un qui a eu toutes les maladies possibles les unes après les autres.
Elle le faisait exprès.
Elle ne le faisait pas exprès. Ça arrivait comme ça. Et chaque fois, il fallait qu'elle trouve la clé. C'est-à-dire, chaque fois, il fallait que dans son corps même, elle voit ce qui était la cause et la guérison. Alors, c'est un millier d'expériences qu'elle a traversées pendant des années pour arriver à la racine de tout cela.
Jamais un médecin ne l'a soignée.
Elle avait tout le temps, il y avait tout le temps un médecin qui était là près d'elle et qui s'occupait d'elle, de lui faire des bouillons, mais jamais on a soigné mère, bien entendu. Elle avait une filariose, elle a attrapé, ça c'est un autre exemple de l'illusion des pouvoirs, elle avait attrapé une filariose par des piqûres de moustiques. Chez Aurobindo et mère, on fait comme dans le cas de ce yogi qui avait été mordu par un chien enragé, ont appliqué leur pouvoir, et pendant, je crois, 10 ans, la filariose ne s'est pas manifestée. Et puis, tout d'un coup, quand mère a commencé à faire ce yoga de la transformation du corps, cette filariose qui avait été maintenue sous un pouvoir et empêchée de se manifester a tout d'un coup jailli. Et 10 ans après, elle s'est retrouvée avec une filariose terrible. Pour qu'elle trouve le réel mécanisme de la guérison. Parce que, encore une fois, il ne s'agit pas d'imposer un pouvoir à la matière, il faut trouver dans la matière ce qui est, en quelque sorte, en dehors de la maladie.
Et quel était le mécanisme, par exemple, dans le cas de la filariose ou de toute autre maladie? Est-ce que c'est toujours à la racine un angle de la conscience qui est provocateur de la maladie?
Toujours, n'est-ce pas? On s'aperçoit que la maladie est comme un bain constant dans lequel nous sommes. Nous sommes constamment dans la maladie. Et que là-dedans, dans ce bain, il y a dans certaines positions de conscience, la maladie arrive, et dans certaines autres positions, la maladie n'arrive pas. Avec certaines positions de conscience, la mort peut se produire, avec une autre, la mort est comme dissoute. Et pendant 3-4 ans, mère me parlait constamment de cette extraordinaire, infime, microscopique bascule de la conscience du corps. Tout d'un coup, on est vraiment comme si on allait mourir. Le cœur se met à battre follement, ou on est sur le point de mourir. Et puis, avec une toute petite bascule de la conscience, hop, ça disparaît, c'est comme instantané. Ce n'est même pas guéri. C'est comme si la maladie n'existait plus.
Mais c'est un acte de volonté, ça.
Mais non, c'est tout à fait au fond du corps, il n'y a plus d'acte de volonté, il y a simplement une position de la conscience cellulaire. Il y a simplement une position. Alors, ce jeu de bascule a dû se répéter pendant des années avant qu'elle en comprenne le mécanisme. Et c'est là où elle s'est aperçue d'un phénomène très simple et très extraordinaire. Quand on a dégagé la matière de son hypnose, de l'hypnose de ce que dit la médecine, de toutes ses peurs, ses réactions, tout ce qu'on a collé sur elle par l'éducation, par l'atavisme, par toute l'évolution. Si on arrive à cette matière pure, si je puis dire, cette matière première qui, tout d'un coup, a commencé à s'enrouler pour former un flagellé ou pour former un pseudopode. Cette matière, en quelque sorte, vierge, qui, la première fois, a pris certaines habitudes de s'enrouler d'une certaine façon.
Innocente.
Innocente, si je puis dire, oui. Une matière clarifiée. Eh bien, tout est possible. Il n'y a pas de loi, là. C'est une matière extraordinairement souple, dont on peut faire tout ce qu'on veut, à qui on a donné dans l'évolution l'habitude de tourner, de s'entortiller d'une certaine façon, à laquelle on a ajouté des idées, des pensées, des tu peux et tu ne peux pas, mais dessous, la matière telle qu'elle est, non revêtue, est extraordinairement souple, comme elle pouvait l'être quand elle a formé un premier pseudope. C'est simplement, comme disait Mère, c'est une bonne volonté imbécile.
C'est tout à fait comme Barba Papa. C'est un livre d'enfant qui, justement, est fondé sur cette idée d'un être qui est composé d'une matière totalement non conditionnée, indéfinie et souple, et qui est d'une grande bonté, justement, et qui fait ce qu'on veut. Alors, les enfants veulent aller sur le lac, Barba Papa se transforme en barque. Ils veulent aller dans l'air, ils se transforment en avion, etc. Donc déjà, c'est assez amusant parce que pourquoi Barba Papa a-t-il surgi tout d'un coup dans les livres d'enfants comme quelque chose qui est ça. Bon, c'est une petite parenthèse.
C'est très exact. On voit, en fait, c'est un phénomène. Si le phénomène a pu se produire dans le corps de Mère et de Sri Aurobindo, ça veut dire que ça s'est produit dans toute la conscience terrestre. Alors, suivant la formation de chacun, ça peut jaillir sous forme d'intuition scientifique, sous forme de science-fiction, sous forme de roman, ça jaillit de mille manières. C'est parce que le phénomène, en effet, est devenu possible qu'il est entré dans la conscience et dans l'imagination des hommes. Autrement, il n'y serait pas. Il ne serait pas entré.
Mais alors, dans le fond, la matière, une fois franchie toutes les couches du conscient, demi-conscient et conscient que les analystes nous enseignent aujourd'hui, et puis arriver au bout de la matière, puis en dessous encore de la matière, qui prend la décision de changer l'angle de la conscience tel que, tout d'un coup, on est sorti, disons, de l'enfer?
Alors c'est là où le problème de l'espèce en tant que totalité intervient, n'est-ce pas? On ne peut pas se transformer tout seul. Parce que cette matière telle qu'elle est, c'est ce lieu qui est d'une bonne volonté si extraordinaire, est aussi un lieu d'une puissance foudroyante. C'est l'énergie même qui a mû toute l'évolution. Alors, quand cette matière telle qu'elle est affleure, et c'est ce que l'on pouvait voir dans le corps de Mère, c'était très insupportable. Et on comprend qu'il faut qu'un minimum de conscience humaine et d'être humain suivent le processus pour qu'une transformation devienne possible. On ne peut pas être tout seul glorieux et transformé dans sa chambre. Et à quoi ça servirait? Il faut vraiment que toute l'espèce commence à laisser filtrer cette énergie ou cette possibilité dans sa propre peau pour que le phénomène soit possible. Il faut que ça se produise collectivement. Autrement, c'est encore une évolution ratée, n'est-ce pas? Si elle se produit dans un individu seulement.
Donc il est possible que ça rate. Je veux dire, l'espèce nouvelle n'aura pas forcément lieu.
Elle aura forcément lieu. L'évolution a lieu, n'est-ce pas? Ce n'est pas un phénomène qu'on peut arrêter nulle part.
Ce que vous suggérez, c'est qu'on peut accélérer le mouvement.
Ah, ça oui. Ça oui. La compréhension accélérée. Déjà, si nous sortions de notre hypnose scientifique qui nous dit perpétuellement mais la mort est inévitable, la maladie est comme ceci, si nous sortions déjà de cette hypnose, si nous comprenions que tout cela est vraiment une totale fabrication de sorciers, comme vous disiez tout à l'heure, monsieur Jécu, si justement, ce serait déjà une première porte de sortie. Et d'ailleurs, il n'y a qu'à regarder le monde autour de soi. On voit qu'à tâtons et sous des formes les plus aberrantes, toute cette jeunesse en particulier a envie de casser les murs. Elle se sent emprisonnée dans quelque chose qui est un monstrueux artifice. Elle ne met peut-être pas de nom dessus, mais en fait c'est le monstrueux artifice de la médecine, le monstrueux artifice de la science, et c'est tout notre artifice qui est faux d'un bout à l'autre. Et c'est contre ça que la jeunesse est en train de se révolter. Le phénomène du changement d'espèce ou le passage à l'autre espèce, il est en fait en train de se produire partout dans le monde. On n'en voit que le visage négatif.
Encore que du côté des mondes scientifiques, il y a plus d'ouverture que...
Oui, ceux-là peuvent peut-être comprendre plus vite et mieux.